Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Sortie de classe. Donc, c'est une cinquième saison, déjà cinq saisons. Cinquième ou sixième émission de cette saison-là. Donc, ça va bien, ça roule. Je vous remercie d'avoir été patient parce qu'on a eu une petite pause de la relâche. On a eu aussi la pause la semaine passée. Parce que, je me suis marié et nous sommes partis en voyage de noces. Alors, ça nous a fait du bien de partir un peu. Merci de votre patience. Et puis, écoutez, on revient en force. Mais avant tout, j'ai mes petits messages à passer. Donc, n'oubliez pas que lorsque vous écoutez, que vous regardez l'émission en direct, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, la page Facebook du Centre d'apprentissage ou la chaîne YouTube, vous pouvez aussi commenter. Moi, je vais voir vos commentaires, vos questions et vous pouvez aussi questionner nos invités, mes invités. Donc, gênez-vous pas. Je n'aurai peut-être pas le temps de toujours tout nommer et tout questionner. Évidemment, là, une heure, ça passe assez rapidement et avec les invités que j'ai là, j'ai l'impression que je n'aurai pas assez d'une heure. Mais on va faire ce qu'on peut. Donc, n'hésitez pas à commenter et à poser des questions. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok en allant chercher Pierre le prof. Les médecins quittent TikTok parce qu'ils ont eu un message de leur ministère. Je ne sais pas si les profs, on devra aussi quitter TikTok, mais j'en connais déjà une gang qui sont sur TikTok. On verra. Pour voir et revoir l'émission, vous pouvez aller sur ludoka.ca/sortie de classe et n'oubliez pas que nous serons en balado, que l'émission sera en balado peut-être ce soir même ou demain. Donc, mais il faut aller voir Pierre qui roule sur la plupart des plateformes. Donc, sans plus tarder, je reçois mes invités après ceci. Bonsoir messieurs, sortie de classe avec M. Christian Boyer, Frédéric Morneau-Guérin et M. Steve Bissonnette. Messieurs, je vous laisse quelques secondes chacun pour vous présenter qui vous êtes. Courte bio, messieurs. Si possible, on peut commencer par Christian.
Bonsoir. Donc, mon nom est Christian Boyer, j'ai été orthopédagogue, après ça j'ai été conseiller pédagogique en sciences humaines, primaire, secondaire, après ça j'ai travaillé aussi un peu en maths, en français. Ensuite, j'ai été directeur adjoint d'une école primaire à Windsor, en Estrie. Après ça, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai été chargé de cours aussi à l'Université de Sherbrooke. Et ensuite, je suis parti à mon compte parce que j'ai écrit un livre en 93 qui s'appelait « L'enseignement explicite de la compréhension en lecture ». Et là, j'avais commencé à avoir beaucoup de demandes de gens qui voulaient des formations, qui voulaient des suivis dans les écoles. Fait que là, j'ai laissé mon travail. Je suis devenu travailleur autonome, et bon, etc. Et maintenant? Je ne suis pas un prof universitaire. J'ai d'autres défauts, mais pas celui-là.
Ça commence bien l'émission, messieurs. Frédéric Morneau-Guérin.
Oui, mais moi, j'ai ce défaut-là. Je suis mathématicien de formation et professeur au département éducation de la TELUC.
Excellent. Steve?
Ben, je suis dans le même département que Frédéric. Moi, je suis un vieux routier. J'ai commencé à travailler avec les élèves en difficulté. J'avais 19 ans, donc ça fait plus de 40 ans. J'ai été longtemps à l'intérieur des écoles primaires, secondaires et j'ai choisi de terminer ma carrière à l'université pour essayer du mieux qu'on peut d'améliorer la formation en enseignement. Alors voilà.
Excellent. Et comme à toutes les émissions depuis le début de cette saison-là, j'ai une petite partie actualité. Ça ne devrait pas être long aujourd'hui et on passe aux actualités tout de suite. Voilà. J'adore cette petite musique-là, mais je trouve que ça met du soleil un petit peu dans l'émission. Grosse nouvelle, notre ministère n'est pas efficace. selon la presse, en fait, en premier, ben, j'ai vu la presse. 58%, donc le ministère de l'Éducation. Et pour bien voir les notes, là, comment ça fonctionne, pour le calcul de la note globale du ministère, le volet efficacité de l'État compte pour 50%. Donc, c'est pas. C'est ça, il faut faire attention à ce que j'ai dit. Là, c'était pas vrai. Là, je dis pas que le ministère n'était pas efficace, mais ça compte pour 50%, donc l'efficacité. Et pour 35%, donc la gestion des ressources de l'État. Oh là là! Et 15% pour la gestion axée sur les résultats et la révision des programmes. Justement, on va en parler aussi des résultats de cette gestion-là, des résultats avec nos invités. Donc, je trouve qu'il faudrait peut-être faire un petit effort là-dessus. J'ai comme l'impression, peut-être que vous pourrez m'en parler, messieurs, mais on ne s'attendra pas là-dessus trop longtemps. J'ai comme l'impression que quand ce n'est pas notre argent, c'est moins pire que quand c'est le nôtre. Hein. Moi, j'ai déjà eu une business au début, juste avant de devenir enseignant, j'avais une business. Puis on devait refaire la terrasse, c'était un resto-bar. Et puis la personne, elle m'a dit « Ouais, ça va coûter un petit peu plus cher. » J'ai dit « Je pense pas. » Je pense pas que ça va coûter plus cher parce que ce que tu nous avais écrit, c'est ça. Puis nous, on t'a donné ce qu'on devait te donner. Donc, tu devrais nous donner. Il n'y a pas eu de dépassement de coûts et de dépassement de temps parce qu'on ne voulait pas ça puis on ne comprenait pas pourquoi il y en aurait. J'ai comme l'impression qu'il y a comme un, je ne sais pas, quand ce n'est pas notre argent, c'est moins pire ou c'est pire. Mais bon, je pense qu'il y a un travail à faire sur l'efficacité sur le ministère de l'Éducation, entre autres. Petite dernière actualité, le français au cégep. Ça commence à titiller le monde un peu, cette affaire-là de français. Il va falloir qu'on regarde aussi. Bien, on va parler d'efficacité. On va en parler ce soir avec nos invités. Sommes-nous efficaces dans nos méthodes d'enseignement du français? Avons-nous assez de temps pour le faire? Est-ce qu'on a les bons moyens pour le faire aussi? Donc, tout ça ensemble, ça peut faire en sorte que ça peut varier aussi d'une école à l'autre, d'un milieu à l'autre. C'est pas. On s'entend qu'on n'a pas toute la même recette partout, tout le temps non plus. On n'a pas les mêmes moyens dans toutes les écoles. Donc, c'est pas évident non plus de gérer tout ça. Donc, il va falloir qu'on y pense. Parce que là, le français, on en a parlé pour le cégep. Là, on revenait de la pandémie, fait que peut-être que ça avait un lien. Mais là, le cégep, on en parle. Bon, donc, on va falloir qu'on regarde là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Messieurs, je ne veux pas qu'on s'attarde sur nos actualités. J'invite encore les gens à nous dire bonjour, à commenter, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. On va tomber dans le vif du sujet. Messieurs, on va commencer par définir ce qu'est des données probantes. Qui se lance ce soir sur la définition des données probantes? Christian.
Les données probantes, dans l'ensemble des domaines, ça s'appuie sur des données quantitatives à partir desquelles on peut se baser pour tirer des renseignements, tirer des orientations, élaborer des interventions, des politiques en santé, en politique en éducation. Les données probantes, ils proviennent principalement des recensions systématiques des écrits de type expérience ou quasi de recherche expérimentale et quasi-expérimentale. Qui démontre ou non l'efficacité de la variable ou du programme qu'on veut mettre en place. Juste une petite parenthèse, ça va en données probantes, mais ça rejoint un peu ce que tu disais dans l'introduction. Mm-hmm. Depuis 40 ans, le ministère de l'Éducation, dans les décisions qu'il a prises, il y a probablement moins de 10% des décisions qui ont été basées sur des données probantes. Mm-hmm. Probablement moins que 10. Deux.
Attends un instant. Recommence ça, là. Non,
c'est important.
Oui, mais recommence cette phrase-là.
Je recule. Donc, depuis 40 ans, si on prend chacune des orientations, des politiques, des changements de programme, il y a probablement moins de 10% de ces programmes-là, ces orientations, ou des décisions du ministère, qui était appuyé sur les données probantes. Probablement moins de 10%. OK? Deux. Les orientations qui ont été mises en place ont presque jamais été expérimentées ce qu'on appelle des expérimentations pilotes. C'est-à-dire qu'avant de lancer un programme, on va l'expérimenter sur un petit nombre, on va avoir des mesures avant, des mesures après, on va avoir des mesures avec un groupe extérieur. Très, très rare que ça se fait. Très, très rare. Trois, une fois que l'orientation est prise, il n'y a pas de suivi. Regardez, par exemple, ce qui a été fait par rapport à la COVID. On a investi, si je me souviens bien, il me semble que c'est en haut de 60 millions, 80 millions, 100 millions, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais c'est plusieurs millions avec le tutorat. Il y a des données probantes sur le tutorat qui nous indiquent dans quelles conditions ça peut fonctionner. Ça peut. On n'a même pas de garantie, là. Mais ça peut fonctionner en respectant un certain nombre de conditions. Le tutorat a été mis en place en diffusant très, je dirais, un peu clairement l'ensemble de ces conditions-là. Il n'y a pas eu de mesure avant, pas de mesure après.
Mais faut qu'on,
ça a
faut
donné
comprendre.
Des résultats? On sait pas.
Oui, mais Christian, il faut comprendre aussi que... puis je ne suis pas en train de défendre rien du tout non plus. Là, on jase.
Tu peux défendre.
On jase. Oh, moi, non, mais on jase. Là, tu sais, moi,
c'est ça, mais tu peux défendre. C'est
non, non. Mais je veux dire, on était aussi un peu en mode urgence.
Oui.
On s'entend... Ouais. Je ne sais pas, là. Ouais. Je ne sais pas si ça peut
tomber
dans la balance.
Oui, mais on peut
tout comparer
aussi au ministère de la Santé. Eux autres aussi étaient dans l'urgence. Puis dans les décisions qu'ils ont prises, ils ont pris des mesures avant, ils ont pris des mesures après. Ils ont fait des erreurs à cause de la situation qui était une situation d'urgence. C'est bien sûr. Mais de ne pas mesurer, c'est une caractéristique plutôt du ministère de l'Éducation.
OK. Frédéric, est-ce qu'on peut ajouter quelque chose sur ce que Christian a dit sur les données probantes?
Je pense que c'est important de mentionner que les données probantes, ça vise à prouver des choses, mais donc prouver non pas avec, disons, le degré de précision d'une science, disons, comme les mathématiques, quelque chose de logique, là, une démonstration de l'esprit, d'écoulement d'axiomes ou des choses comme ça. Là. On est dans le domaine empirique, dans le domaine quasi-empirique parfois, donc on ne vise pas une certitude, on est en science, ça veut dire que la certitude, ce n'est pas nécessairement l'objet, le but visé. On ne peut pas l'atteindre à tout le monde. On peut le viser, mais on ne peut pas l'atteindre. Donc, il faut garder en tête que les données probantes, ça veut dire qu'on accumule des informations qui visent à prouver des affirmations tout en gardant la possibilité ouverte que les choses puissent être corrigées plus tard, précisées plus tard. Donc, il y a jamais la notion de certitude, il y a toujours la notion d'amélioration ou de remise en question. On n'est pas en religion, on est en science.
OK. Steve?
Juste pour compléter les collègues, Frédéric vient de le nommer, il y a une notion de preuve lorsqu'on parle de données probantes. Et ce que Frédéric vient d'ajouter, c'est jusqu'à preuve du contraire. Mais par contre, il y a quand même en éducation, des domaines où ces données-là convergent depuis fort longtemps. Puis je donne un exemple très concret. Pour l'apprentissage de la lecture, nous savons, et vous allez retrouver ces renseignements-là dans les travaux de Jean Shaw, une des plus grandes expertes en lecture aux États-Unis, elle nous disait dans son volume publié en 2000 que les méthodes d'enseignement centrées sur le code écrit sont les méthodes les plus favorables pour l'apprentissage de la lecture, et on sait ça depuis les années 20. Donc, il y a certains domaines ou certains thèmes, certains secteurs sur lesquels les données s'accumulent année après année. Et à ce moment-là, la robustesse de ces données-là devient plus importante. Ce n'est pas le cas partout. Mais oui, comme Frédéric disait, il y a une notion de preuve, mais quand, par exemple, on sait depuis 100 ans que les méthodes centrées sur le code écrit sont les meilleures pour apprendre aux enfants à lire, c'est un petit peu gênant de commencer à avoir des débats là-dessus dans les années 2000.
Oui, je comprends. Voilà. Messieurs, moi, j'ai lu, je vous l'ai dit tantôt en pré-émission, j'ai lu votre texte de façon assez rapide. J'avais besoin de savoir, puis je veux dire, vous n'y allez pas non plus avec le dos de la cuillère dans ce texte-là. Vous commencez cependant en remerciant Allaire et ses collègues, parce qu'il faut dire à nos auditeurs là, que vous avez écrit un texte sur l'efficacité de l'école à distance. Il y a eu des réponses, il y a eu des réponses de réponses, et puis là, vous avez fait un texte qui répondait vraiment à tous les arguments, aux contre-arguments de Allaire et ses collègues, que j'ai reçus d'ailleurs à l'émission. D'ailleurs, on a parlé de vous à cette émission-là, puis je voulais aussi vous donner le droit de parole. Vous remerciez en tout début Allaire et ses collègues d'avoir pris le temps de répondre à votre texte, Parce que vous dites que les débats en éducation, ben, premièrement, on n'en a pas ou presque pas. Et j'ai l'impression qu'on a, on vit un vrai débat avec vous. C'est-à-dire, vous d'un côté, ben, disons ça comme ça, là, sans, on va tous dans la même, on veut toute la même chose, là, la réussite de tous nos élèves et le bien-être des profs. Moi, je pense que ça, on oublie ça de temps en temps. Est-ce qu'il manque de débats au Québec? Puis pourquoi on a tant peur des débats au Québec? Christian?
Je vais répondre, mais avant ça, je vais amener une précision. Le texte que tu as lu, je peux, on se tutoie, hein?
Ben oui, il fait longtemps qu'on se connaît.
Moi, je dirais un gros... le texte qu'on a écrit portait principalement sur l'effet de l'école à distance ou des écoles virtuelles, on pourrait qu'on appelle aussi, pendant la période de la COVID, pendant le premier confinement. Et c'est Steve qui avait commencé à regarder on était probablement au mois de janvier 2020. Puis là, il m'a proposé qu'on regarde ensemble les recherches. Puis très rapidement, puis je pense que tu l'avais vu dès le départ, c'est que très rapidement, les recherches indiquaient que le premier... Puis là, on était au premier confinement. Hein. Il y a des régions qui ont eu 5-6 confinements. Fait qu'au premier confinement, les résultats étaient catastrophiques à travers le monde. Je ne parle pas du Québec, parce qu'au Québec, on ne mesure pas vraiment. Au Canada non plus, pas grand-chose. Il y a eu, je pense, c'est juste en Alberta, où il y avait quelque chose. Hein. Mais sinon, non, nous autres, on y va avec le senti, comment est-ce qu'on sent les ondes et tout. Puis avec ça, on y va. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on voyait? C'était la catastrophe complète. Quand on a vu ça, on s'est dit, on anticipait que c'était le premier confinement, puis qu'il y en aurait eu d'autres, qu'il était pour en avoir d'autres. Mm-hmm. On s'est dit, si l'enseignement à distance a une certaine efficacité avant la COVID, bien, possible qu'elle puisse en avoir après, puis qu'on va pouvoir ramasser les affaires. Mm. Fait que là, c'est là qu'on a été voir les recherches qui portaient sur l'enseignement à distance avant la COVID. Et là, M. Allaire et ses compagnons et compagnes, c'est là-dessus qu'ils n'ont pas pris l'ensemble de ce qu'on a fait, ils ont pris une petite partie de ce qu'on a fait, qui les a probablement vraiment indisposés. Ils n'avaient pas les conclusions. Et bon, les conclusions, c'était quoi? C'est aussi catastrophique.
Mais pour en revenir à ma question sur les débats...
Il n'y en a pas de débat. Mais pourquoi il n'y a pas de débat? Tantôt, on parlait, mais ça, je pense que c'était hors onde, on n'était pas encore en onde. Dans les années 2000, ça. Encore, je vais parler au début des années 2000. Si vous étiez quelqu'un avec un doctorat en éducation, en pédagogie, qui était critique face à la réforme scolaire, vous ne pouviez pas travailler dans une université. Si vous étiez un behavioriste ou simplement, un praticien plus branché sur la recherche expérimentale, vous ne pouviez pas travailler dans une université. Vous n'étiez pas accepté. Et là, on est en 2023, et on n'est pas encore sorti de ça. Pourquoi on est si peu nombreux à dire le contraire d'une masse de professeurs universitaires? C'est qu'il y a eu un nettoyage, je dirais pas ethnique, mais idéologique depuis 30 ans. Et c'est encore ça.
On empêche les gens de parler?
Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, on a publié quelque chose, je ne dirais pas où, ça va donner trop d'indications aux gens. Parce que là, vous avez peut-être une image, le milieu universitaire, ça doit être tout des fins et des gentils, tout ça. Oui, non, ce qui est du monde.
Votre idée
des
là-dessus.
Fois, c'est un peu, des fois, ça fait des affaires d'hommerie. OK? Bon, donner un exemple. On écrit un texte. Je communique avec des profs universitaires. Puis il y en a un qui me dit, je suis d'accord, mais je ne signerai pas. Je dis, pourquoi? Si je fais ça, je n'aurai pas les subventions que je demande. Pourquoi? Parce que c'est géré par les consoeurs confrères.
OK. Donc, il y a...
Aidé, là.
Il y a un omerta, donc, il y a un omerta pas mal partout.
Ça, oui. Plus que ça, il y a des gens qui ont dû démissionner parce qu'ils tenaient un discours qui ne convenait pas à l'ensemble du corps professoral. Ils critiquaient la formation ou ils critiquaient le ministère ou ils critiquaient le courant constructiviste et ils ont dû se tasser. C'est ça la réalité. Donc, aujourd'hui, on est dans quelle situation? Je vous dirais que 90 % et plus des profs dans les facultés d'éducation sont plutôt d'orientation officielle constructiviste. Puis, il y a peut-être, je ne sais pas, je ne sais même pas si sur ma main, là, ça représente le nombre de chercheurs qui font de la recherche expérimentale. Je ne suis pas sûr qu'on en a 5 sur je ne sais pas combien de profs, là. C'est des centaines, là. C'est plus que. Ça doit être pas loin de 700, 1000, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr si on produit presque pas de recherche expérimentale au Québec. C'est près de zéro. Fait que pourquoi il n'y en a pas de débat? Pas compliqué, il n'y a pas personne. Fait quand ils font des réunions entre eux, là, ils vont discuter du dessin sur la tapisserie. Là. Ils sont d'accord avec cette petite fleur-là, tout ça. Mais remettez pas à tapisserie en cause, par exemple. Non, ça, c'est pas acceptable. C'est ça la situation. Fait qu'il n'y en a pas de débat. Tout le monde dit la même chose. Et ce que je vous dis là, c'est ministère de l'Éducation, les centres de services. Les consultants externes, c'est partout comme ça, c'est le courant constructiviste, mur à mur. Il est très difficile de le contester.
Ouais, je
et
me
quand
suis
vous
fait...
le faites, vous êtes toxique.
Ouais, je me suis fait... J'ai été conseiller pédagogique là, pendant quelques années, là, et je me suis fait faire des prises de... des captures d'écran de certains tweets. Qui me sont revenus par courriel. Alors, je me suis dit, bah, écoute... Puis, j'étais pas... Vous me connaissez, vous m'avez suivi sur Twitter un peu. Je suis pas un bâcheux de mes employeurs. Je suis pas là du tout. Là. Je suis même pas là. De temps en temps, il faut dire les vraies affaires. Puis, je pense qu'on a un petit peu de misère avec ça. De toute façon, je pense que c'est assez culturel au Québec. Hein. On n'aime pas la chicane.
On n'aime pas la chicane dans le
cadre. C'est ça. Puis, écoute, on aime mieux... On continue comme ça parce qu'on a toujours fait ça comme ça. Tu sais, je veux dire... OK. Mais on a présentement un certain débat avec nos amis Allaire et compagnie. Puis, ça augure bien quand même, non?
Il n'y a pas de débat. Pareil, je ne sais pas, les autres...
Attends un peu, Christian. Oui, oui, oui. On va laisser parler Frédéric. Oui. Messieurs.
Frédéric?
Non, je te laisse aller, Steve, vas-y.
Bon, la première des choses, là, le texte dont tu parles, Pierre, a été écrit exclusivement par Christian et Frédéric. Moi, j'ai demandé directement à la revue du CRIRES un droit de réplique qui m'a été accordé. J'ai écrit un article plus court pour répondre aux différents arguments qui étaient évoqués par ce groupe-là. Mais grosso modo, débat, c'est un grand mot, au sens où les différents arguments qui sont utilisés par le groupe de Allaire et ses collègues sont des arguments qu'on est capable de réfuter un après l'autre sans aucun problème. Le texte nous semble avoir été écrit beaucoup plus pour défendre ce qu'ils ont comme position, ce qu'ils prônent comme recommandation, plutôt qu'une critique valable et valide sur le texte que l'on a écrit. Quand je parle du texte qu'on a écrit, c'est celui du départ, où Christian et moi, on avait fait une revue de la littérature sur les écoles virtuelles, particulièrement avant la pandémie. Et il faut se rappeler que ces écoles-là existent depuis 20 ans aux États-Unis, particulièrement dans l'État de la Floride. Et les chercheurs qui travaillent sur l'analyse de ces établissements-là avaient demandé en 2019 un moratoire, donc avant l'avènement de la pandémie, ces chercheurs-là avaient demandé un moratoire ou un ralentissement sur le développement de ce type d'établissement-là, tellement que les résultats étaient mauvais aux États-Unis. Donc, c'est pas nous qui l'inventons, là. C'est qu'on a tout simplement fouillé de la littérature, puis ce qui nous a surpris, Christian et moi, c'est que la convergence des résultats était plus que claire. Généralement, ouais. Généralement, en recherche, il va y avoir bon, parfois des recherches qui vont se contredire, mais dans ce cas-là, l'ensemble des recherches rigoureuses et des rapports avaient quand même montré des résultats négatifs, fortement négatifs dans certaines recherches, et même auprès d'élèves qui provenaient de milieux plus favorisés et qui avaient des résultats scolaires plus élevés que la moyenne. Donc, il y avait comme... C'était tellement clair que c'était presque surprenant. Moi, je vous avoue que c'est une littérature que je ne connaissais pas avant de m'y intéresser, mais les résultats sont extrêmement clairs. Et visiblement, quand on les a publiés, ben, ça ne semble pas, mais pas du tout, avoir plu aux gens qui prônaient le recours aux technologies, l'enseignement à distance, etc., pour le primaire puis le secondaire. Voilà.
Je vais juste faire une petite parenthèse sur les écoles virtuelles. Est-ce que, par exemple... J'ai reçu, il y a une émission, là, on a dédié une émission à l'école à distance, OK? Mm-hmm. Bon, l'enseignement à distance. Puis, on avait une élève qui faisait du sport de haut niveau, qui ne pouvait même pas être dans sa classe, ou presque rarement. Et pour elle, c'est magique. Donc, elle pouvait, puis elle réussissait très bien. Est-ce qu'on peut s'entendre pour dire que les écoles virtuelles, un, ne sont pas faites pour tous et toutes, et elles peuvent être efficaces dans un certain cadre, c'est-à-dire avec des outils intéressants. Il faut que le prof soit formé de façon adéquate, puis il faut que l'élève soit soutenu dans son apprentissage, même s'il est à distance, là. Donc, est-ce qu'il y a des conditions nécessaires pour que ça fonctionne ou c'est peine perdue? Je ne sais pas pourquoi on en fait encore. Pourtant, on a une élève, là, je dis une, il y en a plusieurs qui font du sport-études, puis ce n'est pas la seule là, qui fait du ski, puis qu'il faut qu'il s'exile. Là. Donc, est-ce que c'est seulement pour une minorité, une partie de la population?
Christian, veux-tu répondre?
Oui.
Je veux entendre Frédéric aussi. Là.
OK.
Moi, tu y allais, Frédéric? J'irai après.
OK. Je voulais ajouter un élément d'information sur ce que tu disais, Steve, puis t'en lien avec ce que tu disais, Pierre, aussi. C'est que les chercheurs qui se sont prononcés, ce sont des chercheurs indépendants. C'est sur 20 ans, et je veux rappeler ce que Steve a dit tantôt, c'est que dans les écoles virtuelles, aux États-Unis, depuis 20 ans, la clientèle, c'est une clientèle qui est habituée de réussir, avec moins d'élèves en difficulté, de milieux socio-économiques plus favorisés. OK? Donc, ils ont, c'est une clientèle, je dirais, un peu comme les clientèles qu'on peut retrouver dans certaines écoles haut de gamme, privées haut de gamme. Donc, ils ont tout pour réussir. Tu peux leur mettre n'importe quoi, puis ils vont finir par réussir. Mais malgré tout, la fréquentation d'écoles, l'école virtuelle, a fait que leur rendement a baissé. Et le pire de ça, c'est que c'est cumulatif. Tu passes un an, je vais vous faire un tableau en gros, là. Tu passes un an, tu recules de 2 mois par rapport à si tu avais été dans une classe ordinaire, roche et mortier, comme ils disent là-bas. Si 2 ans, tu passes à 4 mois de retard, c'est cumulatif. Plus tu passes de temps en enseignement à distance, plus le recul se produit. Je reviens à la question première que tu posais, puis je vais y répondre. Encore là, je suis toujours par la bande, mais qu'est-ce que tu veux, c'est le même. Mm-hmm. Quand il nous disait, là, le vaccin, mettons, Pfizer, il diminue les probabilités que tu aies le COVID et que tu sois hospitalisé. Est-ce que c'était une garantie que tu n'étais pas pour l'avoir? Là, ma question s'adresse à toi, Pierre.
Non.
Non. On parle de probabilité et on dit, bon, si tu prends le vaccin, ben si tu l'attrapes, ça devrait être moins... Les effets devraient être moins pires que si tu ne l'avais pas. C'est la même chose pour à peu près tout. Quand on parle de données probantes, puis Frédéric en parlait tantôt, c'est une question de probabilité. Dans le cas de l'enseignement à distance et des écoles virtuelles, nous, ce qu'on dit, c'était la conclusion de l'ensemble de notre rapport, et non pas juste la partie que M. Allaire et ses amis mettent en lumière. Ce qu'on disait, c'est qu'il ne faut pas que le Québec s'enligne là-dedans comme étant « voici la façon dont il faut enseigner le plus possible ». C'est un peu ce que certaines des personnes qui sont derrière les... Parce que l'article de M. Allaire et compagnie, là, c'est un d'une série. Là. Ils ont fait d'autres interventions avant. On a décidé d'intervenir là. Mm-hmm. Puis, il y a eu même une lettre avec 51 personnes qui ont signé, bon, etc. Fait que c'est plein de gens. Mais là-dedans, il y a beaucoup de gens qui disent « Non, non, il faut aller vers les tablettes. Tout le monde doit avoir sa tablette. Tout le monde a le TBI, c'est super important. Il faut faire de l'enseignement à distance du type, comment est-ce qu'on appelle ça, les classes inversées, bon, etc. » Nous, on arrive, on dit « Non, 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 c'est pas… » On dit pas que c'est fini pour toujours, mais on dit que jusqu'à maintenant, le résultat, c'est assez catastrophique. Fait qu'on a la décision censée pour un système scolaire, c'est-à-dire, bon, on n'ira pas là. Ça veut pas dire qu'on fera pas de recherche là-dessus, par contre. Pourquoi? Parce que ça se peut que dans l'avenir, on ait besoin de ce mode pour une autre épidémie ou je ne sais pas, ou pour des cas d'enfants qui, parfois, peuvent être très éloignés, peuvent pas fréquenter l'école, ou pour le cas que vous soumettez, que tu soumettais. Mais même là, ça fonctionne, cette fille-là, mais les données qu'on a, c'est que ça peut fonctionner si tu la compares pas à rien. Mais si tu la compares à la même petite fille, le même potentiel, elle fait la même chose, elle fait du sport-études, elle fait de la compétition, mais elle va dans des écoles, ça se peut que l'autre ait un meilleur résultat. Si tu n'as pas de point de comparaison, tu peux pas savoir. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut condamner? Non, on va pas jusqu'à là, mais condamner dans le sens de prendre une décision, de tout envoyer les gens dans ce courant-là au Québec, parce que jusqu'aux dernières années, jusqu'à pas longtemps, il y avait beaucoup de gens, les voix ont baissé un peu avec ce qui s'est passé avec la pandémie, mais il y a plein de gens qui disaient « Non, non, il faut aller là-dedans à fond, il faut que tout le monde fasse de l'enseignement à distance, il faut rentrer le plus de techno possible ». Et là, on dit « Non, 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 faites attention. Pour l'instant, on n'a pas de données pour appuyer une telle orientation. » C'est ça qu'on a dit.
Frédéric?
Rapidement, je vais un peu dans le même sens que Christian. C'est-à-dire, la question à l'origine, Pierre, que tu as posée, concernait une personne. Et tu mentionnais un peu, en quelque sorte, c'est une formule, l'enseignement à distance, qui est utile pour cette personne-là. Mm-hmm. Elle a réussi dans cette formule-là qui était utile. Donc, c'est la question de l'utilité. Si moi, je reconnais que ça peut être un type d'enseignement qui peut être utile dans différents contextes. Mais la question que Steve et Christian ont principalement regardé, c'est la question de l'efficacité. Pas la même que l'utilité, c'est autre chose. C'est ça. Maintenant, ça peut être utile dans certains contextes, mais moins efficace que d'autres choses. Et là, c'est là que les recherches citées par Christian et Steve dans leur premier texte sont intéressantes. Et il faut garder en tête que c'est lorsqu'on parle de données probantes, on parle d'éléments statistiques. Et dès qu'on parle de statistiques, on parle de l'échelle d'une population. Une dame qui réussit bien dans ce contexte-là, c'est une anecdote. Plusieurs personnes qui réussissent bien dans ce contexte-là, c'est quelques anecdotes. Mais à l'échelle de des populations, de des groupes, statistiquement, il n'y a pas, selon ce qui a été rapporté dans différentes études, un gain net à utiliser l'enseignement à distance par rapport à d'autres approches. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire de la recherche sur l'enseignement à distance dans différents contextes? Évidemment que non, parce qu'il peut y avoir, on pourrait discriminer, c'est-à-dire entre différents types d'enseignement à distance avec différentes approches et tester, voir s'il y en a des plus efficaces que d'autres, des moins efficaces que d'autres, mais toujours en contrôlant aussi avec des groupes qui ne seraient pas dans une formule à distance, possiblement des groupes avec des groupes, disons, placebo, c'est-à-dire des gens qui auraient une formule qui serait différente que celle qu'on veut tester. Donc, moi, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de recherche sur l'enseignement à distance. Il faut tout simplement être conscient qu'il y en a un certain volume qui nous amène, qui incite à être vigilant. Voilà.
OK. Oui, c'est...
D'autant plus que les résultats sont négatifs. Là, c'est pas juste une question d'efficacité. On parle d'efficacité, puis je suis d'accord avec toi, Frédéric. Mais, en fait, ce qu'on observe, c'est que ça a un effet négatif sur les enfants. Fait que là, c'est plus, ça donne à peu près la même chose. Non, non, non. Ça a un effet négatif qui recule. Oui, est-ce que Steve, tu voulais parler?
Bon, juste pour compléter rapidement, il faut se rappeler de la raison de la création de ce type d'enseignement-là. Hein. Puis la TELUC est bien placée puisqu'on est la première université à avoir développé de la formation à distance au Québec en 72. Pourquoi ça a été créé? C'est pour démocratiser l'accès aux études. Donc, les gens qui ne pouvaient pas se présenter sur campus, on pense par exemple à des jeunes mères de famille, parfois souvent monoparentales, qui travaillent énormément, bien, la formation à distance, si elle est assez flexible, elle permet à des gens d'accéder à une formation qu'il ne pourrait pas avoir si on restait dans une formule classique. Mm-hmm. Ben, la situation que tu décris, Pierre, elle fait partie de ce qu'on pourrait appeler augmenter l'accessibilité. Bon, l'élève, par exemple, qui est malade, qui mm-hmm. ne peut pas quitter la maison pour X raisons, j'espère qu'on va lui offrir de la formation à distance. Donc, il y a des contextes où, oui, il faut s'en servir pour augmenter l'accessibilité. Mais comme Christian le disait, ce n'est pas parce qu'on essaie d'augmenter l'accessibilité aux gens qui, pour X raisons, ne peuvent pas se présenter en mode présence, qu'il faut, à partir de là, penser que ça va devenir une nouvelle façon de faire l'école.
Et que c'est
l'école de l'avenir, puisque les résultats, c'est quand même intéressant, ils se sont donné la peine de comparer de la présence avec de la distance, et malheureusement, la distance, il faut être conscient qu'elle est moins efficace. Mais entre ne rien offrir à des étudiants et offrir de la distance, c'est bien évident qu'il faut offrir de la distance. C'est comme ça que la pandémie s'est vécue. Mm-hmm. J'espère qu'en contexte de pandémie, on va offrir de la distance à nos élèves. J'aurais le goût de dire, peu importe tes résultats de recherche, à partir du moment où tu es dans un contexte où tu es pratiquement en survie, ben, il faut être capable d'offrir ce qu'on peut offrir à ce moment-là. Voilà.
Parce que, pour un petit fait vécu, là, moi, j'ai pris un cours à la télé que je n'ai pas été capable. Je l'ai fini, je l'ai réussi. Mais moi, j'ai besoin d'un prof en avant de moi qui jase, puis avec qui je peux intervenir. Puis là, j'avais de la lecture à faire. Puis là, oui, là, on peut écrire au prof. Là, oui, là, j'imagine qu'à un moment donné, on peut aussi. À l'époque, on n'avait pas l'audiovisuel qu'on a là, puis qu'on n'a pas les zooms de ce monde. Mais je dois avouer que j'aime pas ça, moi, être dans mon garage. Là, je suis dans mon garage, là, mais je n'aime pas ça être dans mon sous-sol ou dans ma chambre à étudier quelque chose. J'ai besoin de jaser avec des gens, d'avoir un lien avec le prof, même si je suis un adulte. Ça, on l'oublie souvent, d'ailleurs. Mais ça, c'est un fait vécu. Ça, c'est pour moi. Puis peut-être, tu sais, j'apprends des choses seul avec des tutoriels, patentes, bidules. On s'entend là-dessus. Mais de là à faire un bac, de là à faire une matière au complet, ça, pour moi, Pierre Gagnon, dans son garage, ça ne marche pas, là, c'est sûr. Là. C'est...
Mais vous êtes comme la majorité des enseignants. Du corps enseignant. C'est-à-dire que la majorité des gens, quand ils font un deuxième cycle, une maîtrise, qu'est-ce qu'ils veulent avoir? C'est une maîtrise. C'est pas une maîtrise recherche, là, où là, tu es tout seul dans ton coin à faire de la recherche. Non, ils vont suivre, la majorité des enseignants vont suivre la maîtrise avec un petit essai où il y a, là, je sais pas si c'est la maîtrise qualifiante, est-ce qu'il y a un essai dans la maîtrise qualifiante qui s'en vient?
Non.
Je sais pas.
Pas actuellement.
Non, il y en a même pas chez nous. Ils vont préférer suivre des cours, même si dans les cours, on leur dit, ben, il faut que tu fasses tout découvrir à tes élèves. Mais nous autres, on va suivre des cours.
OK.
C'est un peu ça. C'est un peu bizarre, mais c'est ça. Mais vous réagissez comme le corps professoral et comme, je dirais, la plupart des humains. Parce que une des choses qu'on a vues dès le premier rapport, on n'avait pas beaucoup de données au premier rapport, au rapport qu'on a fait en 2001. C'était qu'on voyait que l'effet le plus négatif était chez les enfants les plus jeunes, puis les élèves à risque ou en difficulté. Ouais.
OK? Ça peut être comprenable.
Pardon?
Ça peut être comprenable, ça, les élèves en difficulté,
entre
autres.
Oui, bien sûr. Puis là, plus on montait, puis on arrivait au secondaire, l'effet négatif pouvait être encore là, mais c'était moins pire. Fait qu'on disait, peut-être que c'est correct. Mais au même moment, on commençait à avoir des données qui rentraient, qui indiquaient que même quand ça marchait au niveau du rendement scolaire, c'est-à-dire que les élèves progressaient d'autant que quand ils étaient à l'école, puis même dans certains, il y avait même des résultats dans certains cas qui progressaient encore plus vite. Mais là, on était au secondaire, mettons vers la fin du secondaire, souvent, au niveau cégep. Mais même ces clientèles-là de grands adolescents et de jeunes adultes ne voulaient pas continuer. Ils voulaient retourner à l'école. Ils voulaient revenir chez eux. Puis on commençait à avoir des données qui nous indiquaient qu'au niveau socio-émotif, c'est les ados et les jeunes adultes souffraient de l'isolation puis d'être dans sa chambre, suivre son cours. La question de l'éloignement et du rapport physique, là, Je ne suis pas sûr qu'on va être capable de surpasser ça. Je pense qu'on va être pogné avec ça.
Oui, puis tu as dit deux choses importantes, à mon avis. Tu disais qu'au primaire, les jeunes et les élèves en difficulté, c'était plus difficile pour eux autres. Cependant, on voyait une certaine, disons, une meilleure, une plus, une certaine facilité.
Moins grande régression jusqu'en sixième année. Puis à partir du secondaire, on pouvait voir que dans certains cas, mais surtout vers la fin du secondaire, que le rendement était égal, mais les élèves ne voulaient pas continuer.
Non, mais c'est,
ils voulaient retourner en classe.
C'est ça que je voulais dire. C'est que, premièrement, au secondaire, ben là, on a une plus grande maturité qu'au primaire, peut-être une meilleure discipline aussi. Bon, il y a plusieurs choses au niveau adolescent là, qu'on peut comparer, mais en même temps, l'adolescent a besoin du social. Moi, je me souviens que j'allais au secondaire pas pour apprendre. Ça passait au deuxième plan. Là. C'était pour être avec mes amis, puis triper dans la vie, puis avoir du fun. Steve?
Bon, rapidement.
Frédéric, gêne-toi pas. Hein?
Faut être capable aussi de conscientiser qu'en contexte non pandémique, les taux d'abandon étudiants en formation à distance sont élevés, hein? Même chez des clientèles adultes. Dépendamment des... Je pense que c'est notre collègue Louis Sauvé qui avait publié là-dessus avec Katia Papi, si ma mémoire est bonne, dans un écrit assez récent. Mais on parlait dans certaines cohortes de taux d'abandon jusqu'à 50 % là, au baccalauréat. Là. Mm-hmm. Donc, même pour des adultes dans un contexte non pandémique qui ont choisi la distance, ce n'est pas toujours simple. Donc, imaginons une personne plus jeune, avec moins d'autonomie. La motivation est peut-être un petit peu plus questionnable.
Et les parents qui ne sont pas nécessairement là.
C'est un grand défi, là. C'est un grand défi. Ouais. Donc, c'est pour ça que nous, on dit, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre ça de côté. Comme je le disais tantôt, c'est mieux d'offrir de la distance que de ne rien offrir du tout. Mais il faut être conscient de ses avantages, mais aussi de ses limites importantes, exactement comme Christian vient de le dire.
Si on est capable d'éviter la distance, je pense qu'on est mieux de l'éviter.
Au primaire, au secondaire, c'est clair.
Oui, c'est clair. Est-ce qu'on va aller sur leurs critiques plus pointues?
J'aimerais ça qu'on fasse un 5 minutes là-dessus, parce que j'ai des questions dans le clavardage. J'imagine que vous pouvez même les voir, là, vous, là, si vous cliquez sur le commentaire en haut à droite. Vous voyez les commentaires. Je vais poser la question de Jocelyn tantôt et je vais aussi apporter le commentaire de Maud Daniel. Mais oui, on peut prendre 3-4 minutes parce que je veux qu'on revienne aussi sur l'enseignement explicite que vous défendez vraiment. C'est du haut niveau, votre affaire, là. Et puis, je pense que la question de Jocelyn, j'allais vous la poser aussi. Donc, on va y revenir. Mais on prend 3 minutes pour la critique. Christian, tu voulais t'avancer là-dessus?
Revenir sur des points. Mes collègues, vous êtes d'accord qu'on s'en va là?
OK. Oui.
Bon, dans la critique de M. Allaire, M. Allaire va utiliser une méga méta-analyse qui s'appelle Martin Sundam, d'ailleurs, Jocelyn, je pense. En 2022, elle n'était pas publiée. Il utilise la méta-analyse pour essayer d'appuyer la critique qu'il veut faire de ce qu'on a écrit. La chose, par contre, premièrement, si la méga méta-analyse, une méga méta-analyse, c'est quelqu'un qui prend plein de méta-analyses, puis qui fait un
tas de choses,
qui fait une supra-analyse, on peut dire. Okay? Ça porte effectivement ce sentiment de distance. Le X, il y a 19 méta-analyses. Il y en a 18 qui portent sur le post-secondaire, la formation vocationnelle. Ça, c'est la méta-analyse, la méga méta-analyse qu'eux ont utilisée. Il y en a une qui porte sur le primaire. Puis avant d'aller plus loin, leur méta-analyse à Martin et Hall, ça donne un effet de 0,15. Les gens ne connaissent pas beaucoup ça, mais je peux vous dire tout de suite, c'est un effet très faible. C'est-à-dire que, règle générale, quand tu as un effet comme ça par rapport à une variable, ton approche pédagogique, tu fais comme, bon, on part puis on recommence à zéro, là. Ça donne rien. C'est à peu près ça, habituellement. La seule recherche qui portait sur le primaire et le secondaire arrive à des résultats négatifs. S'il va commencer à se mettre sur les recherches derrière la seule, à l'intérieur de Martin et Hart, qui était intégré dans le 19, essaie de retrouver les recherches pour voir quel genre de recherche, il les trouve plus. Et en plus, on découvre, s'il découvre, en lisant, en analysant la méta-analyse qui portait sur le primaire secondaire, qu'il y avait des recherches où il n'y avait pas de groupe contrôle. Mmh. On mesure avant, puis on mesure après. On ne compare pas à rien. Ça, habituellement, tu n'intègres pas ça dans une méta-analyse. Mmh. Enfin, bref, les résultats sont négatifs. Non significatifs, mais négatifs. Ils sont principalement centrés, 75 % des recherches étaient de cette étude-là étaient au secondaire. Ça ne s'applique pas. C'est hors contexte. Venant de gens qui sont toujours avec le contexte, hein, c'est important le contexte, ils prennent une méga méta-analyse qui n'a aucun rapport avec nous. On était au primaire, secondaire, mais principalement primaire. Mm-hmm. Ça n'a pas rapport. Moi, quand j'ai vu ça, je vais vous dire, j'étais surpris. J'ai dit, ça veut dire que la revue a accepté ça. Le comité de lecture, là, on pourra,
ouais.
Frédéric pourra en parler, le comité de lecture a laissé passer ça. Ça ne s'applique pas à notre cas. Puis ceux qui ont signé l'article, là, est-ce qu'ils ont lu Martin et Hall? C'est supposé être leur spécialité, ça, non? Nous, on a présenté, là, j'oublie Martin et Hart. Dans notre écrit, on a présenté en 2021 sur les écoles à distance, mais la partie que Allaire et ses acolytes ont traité, on avait 9 études. Eux, on a retenu 6. Pourquoi? Quand vous lisez ce que M. Allaire dit et que les autres signent, il dit, on n'est pas sûr de leur sélection. Puis nous, c'est important la sélection, fait qu'on a pris celle qu'on était certain qui n'était pas pendant la pandémie. Parce que il laisse comme supposé qu'on aurait laissé glisser des études qui se seraient déroulées pendant la pandémie pour comme noircir l'enseignement à distance avant la pandémie. C'est grave, ça. Moi, je suis pas contre le fait qu'ils mettent cette hypothèse-là. Mais quand ils mettent une hypothèse comme ça, Bissonnette et moi, là, on écrit, ils peuvent nous contester. Moi, j'ai pas de problème avec ça, là. Ça, mm-hmm. ils peuvent nous traiter de non, mais après ça, ils doivent, comme, mettre un peu de chair autour. Là, ils laissent supposer qu'on aurait trafiqué nos données. C'est grave, ça. C'est très grave, cette accusation-là. Allez voir les 3 recherches. Ils ont été publiés 2 en 2019, puis une en 2015. Ça aurait pu être en 2021. Ça aurait pu être pendant la pandémie. Ça n'a aucune allure. Quand une recherche est publiée, quand une recherche expérimentale est publiée en 2019, dans une année, ça veut dire que les recherches, c'était un an avant ou
moins. Oui, oui.
Ça se peut pas. Puis il n'y a personne qui a vu ça. De tous les signataires, M. Allaire n'a pas vu ça. La revue n'a pas vu ça. Le comité de lecture de parler pair en aveugle, en double aveugle, ils n'ont pas vu ça.
Frédéric.
Christian met le doigt sur quelque chose qui m'avait profondément agacé aussi. Une critique qui a été faite du rapport de Christian et Steve au départ, c'était que, bon, c'est intéressant, mais c'est une publication qui n'a pas été révisée par les pairs. Une critique facile et une critique malhonnête, c'est-à-dire le processus de révision par les pairs dans le milieu scientifique est très important, j'en conviens, tout le monde en convient. Simplement, ça ne auréole pas les articles qui sont révisés par les pairs d'une aura de sainteté. La critique par les pairs, c'est un petit comité, une ou deux personnes, qui donne un avis sur l'article pour savoir s'il devrait être publié ou non. Historiquement, c'était l'éditeur en chef de la revue qui décidait ce qui serait publié ou non. On rejetait rapidement ce qui était clairement soit des fraudes, soit des textes incomplets ou des choses comme ça. Le reste était publié et la communauté scientifique pouvait y répondre. Et elle pouvait y réagir par des lettres aux éditeurs, soit par d'autres travaux. Il est venu un temps, vers les années 60 à peu près, où les revues, en fait, il y avait un plus grand nombre de chercheurs que jamais. On valorise beaucoup la publication scientifique dans l'avancement de carrière, donc il y avait de plus en plus de textes. et une spécialisation. Ce qui faisait que les éditeurs en chef ne se sentaient pas toujours bien placés pour avoir une opinion éclairée sur les textes qui leur étaient soumis. Donc, ils ont commencé à faire appel à des experts plus du domaine spécifique pour leur donner un avis. Est-ce que c'est publiable ou non? Simplement, la pratique de cette révision par les pairs-là se passe très souvent en catimini. C'est-à-dire, le rapport n'est pas soumis publiquement pour être analysé. Donc, et souvent, les seules personnes qui le reçoivent, c'est les auteurs eux-mêmes. Est-ce qu'on a la certitude que les gens qui font la révision, qui eux parfois savent le nom de l'auteur du texte qu'ils étudient, font une étude attentive de chacun des aspects de l'article ou s'ils donnent une impression globale? C'est très variable d'une révision à l'autre. C'est-à-dire, il peut très bien avoir une révision globale du texte, des corrections de français, des corrections de disposition, alors que d'autres pourraient se mettre à éplucher chacune des références qui sont mentionnées, vérifier si réellement dans la référence, on soutient le fait qu'il était qu'on dans le texte, on cherche à appuyer. Mm-hmm. On peut réviser toute la méthodologie avec une vision critique, mais qui dit si ça a été fait ou non? D'ailleurs, l'article de M. Allaire et ses collègues semble, selon ce que Christian disait tout à l'heure et ce qu'on dit dans notre texte, possiblement avoir des questions méthodologiques à soulever. Est-ce que la revue, est-ce que les gens qui ont fait l'expertise de ça sont prêts à mentionner si ça a été fait ou non, une expertise, c'est-à-dire une revue systématique de ces aspects-là? Est-ce que ça a été fait? Est-ce que nous, qui avons maintenant une divergence d'opinion avec M. Allaire et ses collègues, pouvons, disons, apporter, c'est-à-dire, dans un deuxième temps, l'article est publié maintenant. Il est dans l'espace public. Est-ce que ça ne fait pas partie de la révision par les pairs que Christian, Steve et moi puissions commenter là-dessus? Est-ce que du simple fait qu'il y a deux personnes en catimini, c'est-à-dire en secret, qui se sont prononcées sur l'article pour dire qu'il était valable, c'est la fin de l'histoire ou est-ce que ce n'est pas plutôt le début du prochain chapitre, c'est-à-dire maintenant qu'il est dans l'espace public, il est permis d'y répondre? Alors, Christian et moi, dans le texte qu'on signe en réponse à M. Allaire, c'est précisément ce qu'on dit. On est content que vous ayez répondu au premier texte. Maintenant, on se désole un peu que vous ayez fait une mention du fait qu'il n'était pas arbitré, donc il est moins bon. Mais ce qu'on vous dit maintenant, on va vous répondre dans un texte qui n'a pas été arbitré par les pairs. Et si vous trouvez un problème avec notre texte, répondez, il est dans l'espace public. Vous êtes des pairs, répondez. Répondez avec des arguments et on verra, c'est nous aussi les arguments, puis on pourra peut-être répondre à vos arguments. Mais c'est la révision par deux arbitres, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début. C'est ce qu'on prétend.
Merci beaucoup. Écoutez, oui, Steve.
Absolument, très rapidement. Très rapidement, je sais qu'il reste peu de temps. Oui. Bon, la principale critique que moi j'ai à faire en complément à ce que mes deux collègues ont dit, c'est que le groupe de M. Allaire se permette de déduire la pédagogie qui est utilisée dans les écoles virtuelles à partir d'un texte d'un auteur qui s'appelle Michel Barber. Et Barber lui-même, l'auteur, nous dit « Je ne suis pas capable de vous identifier la pédagogie qui est utilisée dans les écoles. » Il cite quelques extraits de procédures qui ont eu lieu en cours avec des parents, mais le groupe d'Allaire prend ces quelques extraits-là et en déduit la pédagogie, alors que les auteurs, l'auteur,